Vous écoutez la radio du Monde, il est 4h à Paris.
Christophe Drevet.
Dans l'actualité ce matin, dans l'est de la République démocratique du Congo, les hôpitaux manquent de sang en raison des combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par Kigali. L'acheminement d'une cargaison de poches de sang a du mal à être acheminé vers Goma et Bukavu. Donald Trump recule sur les droits de douane annoncés à l'encontre du Mexique et du Canada. Réagissant notamment aux appels des entrepreneurs américains, il suspend de la liste des taxes jusqu'en avril de nombreux produits des deux pays. Et puis, après l'appel à déposer les armes lancé au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, par le fondateur de la guérilla kurde, Abdullah Öcalan, des milliers de réfugiés espèrent désormais pouvoir rentrer chez eux en Turquie. Dans l'est de la RDC, plusieurs agglomérations du Nord Kivu et du Sud Kivu sont marquées par les conséquences des affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda de l'autre. Les hôpitaux figurent parmi les structures les plus touchées. Ils sont confrontés à une pénurie de sang indispensable pour soigner les blessés par balle ou par explosion. Pour y remédier, le gouvernement congolais a lancé début février à Kinshasa une campagne de collecte de sang. Une première cargaison a été envoyée le 4 mars vers Goma et Bukavu, mais son acheminement s'est heurté à de nombreuses difficultés. Les explications de Patient Ligaudy.
D'abord, les réticences de certains transporteurs qui refusaient de prendre en charge ces poches en raison de la sensibilité du dossier. Ensuite, les restrictions administratives. Lors de l'envoi, il y a 13 jours du premier lot d'équipements médicaux et des médicaments, tout avait été autorisé de Bruxelles vers Goma, à l'exception du sang, selon plusieurs sources contactées par RFI. L'acheminement a nécessité un passage par Bruxelles, Nairobi, Kigali, puis Rubavu, Rwanda, avant d'atteindre Goma. Un trajet long et coûteux, d'autant que ces poches de sang de 500 ml chacune doivent être maintenues à une température spécifique pour éviter toute dégradation. C'est l'Organisation mondiale de la santé OMS qui a facilité l'opération en obtenant un couloir humanitaire permettant ainsi la livraison du premier lot. Un deuxième envoi est déjà programmé, mais avec les mêmes défis logistiques. Lors du lancement de la campagne, le ministre de la Santé, Roger Kamba, avait fixé un objectif de 5000 poches de sang collectées. Un chiffre atteint et même dépassé, assure-t-il, précisant que 1200 poches ont déjà été envoyées vers l'est du pays. Mais sur place, une autre difficulté se pose, la conservation du sang et la distribution aux hôpitaux. Certaines structures de santé ont été endommagées par les violences, compliquant la prise en charge des patients.
Au Sénégal, c'est ce vendredi 7 mars que 5 bases de l'armée française seront officiellement remises aux autorités sénégalaises. Première étape du retrait complet des éléments français au Sénégal. Le retrait des soldats français a été décidé par le président Bassirou Diomaye Faye et doit être terminé à la fin 2025. Les tensions autour de l'Ukraine se renforcent depuis la décision du président américain de s'entendre avec la Russie. Malgré les tiraillements entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, le président ukrainien annonce qu'il se rendra en Arabie Saoudite jeudi prochain, à la veille d'une rencontre entre des délégations américaines et ukrainiennes. Donald Trump, qui garde néanmoins son ton offensif, il a ainsi mis en doute à la fois l'engagement des États-Unis dans l'OTAN et la solidarité des pays alliés au sein de l'Alliance Atlantique. Emmanuel Macron lui a demandé du respect, des échanges plutôt vifs qui interviennent alors que les 27 pays membres de l'UE étaient réunis en sommet à Bruxelles, un sommet pour réorganiser l'Europe face à la menace russe. Les 27 ont donné leur feu vert à un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer le continent. Il a aussi été question d'une aide d'urgence à l'Ukraine. Le recul de l'administration Trump dans sa guerre commerciale avec ses voisins. Le président américain annonce que les droits de douane mis en place depuis mardi 4 mars sur les produits en provenance du Mexique et du Canada sont pour la plupart levés, mais jusqu'en avril seulement. Plus de détails à Washington avec Guillaume Dodin.
Comme il l'avait fait début février, Donald Trump a une nouvelle fois reculé. Les 25% de droits de douane supplémentaires sont levés sur tous les produits qui rentrent dans le cadre de l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique que Donald Trump avait lui-même négocié et signé lors de son premier mandat. Un traitement égal pour les deux pays, malgré des relations différentes, un contact direct avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, quand les rapports sont plus conflictuels et de manière largement publique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, régulièrement qualifié par Donald Trump de gouverneur de ce Poutine aimerait voir devenir le 51e État américain. Mais le répit est de courte durée. Le président américain affirme que les deux prochaines étapes sont maintenues, des droits sur les importations d'aluminium et d'acier à compter de mercredi prochain et des droits réciproques à compter du 2 avril prochain sur les produits de tous les pays à hauteur de ce que ces pays appliquent eux-mêmes aux produits américains. Ces va-et-vient successifs créent de l'incertitude, exactement ce que n'aiment pas les investisseurs. L'annonce de ce recul ne les a pas convaincus puisque la bourse de New York a une nouvelle fois fini la journée dans le rouge. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et Wall Street a enregistré un repli du Dow Jones de près de 1% hier à New York. Aucun lien pourtant avec la politique américaine selon Donald Trump. Il est 4h05 sur RFI. La Turquie exhorte le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à déposer les armes immédiatement et sans condition. Une exigence affirmée une semaine tout juste après l'appel historique pour la résolution du conflit lancé par le fondateur de la guérilla kurde, Abdullah Öcalan, dans le camp de Marmour en Irak, véritable bastion civil du PKK. 8000 réfugiés s'imaginent pouvoir un jour rentrer chez eux en Turquie. Écoutez le reportage de Luca Lasso.
Dans le désert irakien, Marmour accueille les réfugiés kurdes ayant fui la guerre en Turquie. À l'école du camp, les élèves étudient sous le portrait d'Abdullah Öcalan. Pour Kani, 14 ans, un processus de paix, c'est l'espoir de découvrir son pays qu'elle ne connaît pas.
Je rêve de découvrir les montagnes et les rivières du Kurdistan de Turquie. On en a tellement entendu parler. Je crois que tous les enfants du camp de Marmour rêvent de retourner dans leur pays.
Sous bonne garde de l'armée irakienne, Marmour est aussi visé par des frappes de l'armée turque qui accuse le camp d'abriter des combattants du PKK. Pour la directrice de l'école, cette situation rend la vie des élèves impossible.
Après nous avoir obligés à quitter notre pays, la Turquie poursuit ses attaques contre nous. Alors les écoliers du camp sont terrifiés. Ils font des cauchemars à cause des bombardements. Ça affecte leur état psychologique.
Malgré la menace, ces réfugiés qui ont tout perdu en quittant la Turquie il y a 30 ans ne sont pas prêts à rentrer chez eux à n'importe quelle condition, nous expose Félix, la directrice du camp.
La Turquie doit nous dédommager pour nos villages qui ont brûlé et les difficultés psychologiques et économiques entre l'exil. La Turquie doit accepter notre identité kurde et nous autoriser à parler notre langue.
À Marmour, qui a donné plus de 500 combattants à la guerre, les espoirs se disputent à la crainte de voir le processus de paix s'enrayer. Luc Alazo, de retour de Marmour, RFI.
Israël recommence à militariser la famine à Gaza, cela en décidant de rompre l'accord de cessez-le-feu et de bloquer l'aide humanitaire. C'est ce qu'a affirmé un groupe de plus de 30 experts indépendants de l'ONU. Le 2 mars, Israël a en effet annoncé sa décision de couper l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Une décision intervenue sur fond de désaccord avec le Hamas sur la façon de poursuivre la trêve, de plus en plus fragile, entrée en vigueur le 19 janvier dernier. Israël exige pour cela une libération de tous ses otages et également que le Hamas désarme et quitte le territoire. Dépression, idées suicidaires, vie et famille brisées, les premières des 299 victimes de l'ancien chirurgien pédocriminel Joël Le Skouarnec en France ont expliqué ce jeudi à son procès l'impact des violences sexuelles infligées lorsqu'elles étaient enfants par celui qui a pour la première fois reconnu avoir violé trois d'entre elles. J'espère que ça va clore toutes ces années de mal-être pour pouvoir enfin commencer à vivre, a lancé la première, Oriane, violée plusieurs fois quand elle avait 10 ans dans sa chambre d'hôpital. Un procès suivi pour RFI à Vannes en Bretagne par Laura Martel.
Ça fait 33 ans que j'attends ce moment. Le cri sourd, à peine jailli, s'écrase en un sanglot. Il a brisé ma vie et je veux qu'il l'entende. Comme un flot de douleur trop longtemps contenu qui déferle en cascade de mots, Oriane raconte ce doigt qui pénètre son intimité sous prétexte de prendre sa température, ce souffle bestial à son oreille. Depuis, ça revient constamment, constamment. Dès sa sortie d'hospitalisation, puis adolescente, Oriane a bien tenté de faire comprendre qu'elle avait été violée, puis jeune adulte l'a même révélée. Parents, médecins, conjoints, personne ne m'a posé les bonnes questions, personne ne m'a cru. La réputation primait sur le bien-être des enfants, dénonce Oriane. Alors, quand les gendarmes l'appellent en 2019, c'est un vrai soulagement. On allait enfin m'entendre, mais j'avais déjà tout perdu. Les liens avec ses parents, son couple, le plaisir, la santé. Mon corps a parlé à ma place, dit-elle. À 16 ans, j'ai développé des maladies auto-immunes. Tant de choses sont irréparables, mais j'espère, après ce procès, pouvoir enfin commencer à vivre. J'ai dévasté sa vie, réagit Joël Le Squarnec, reconnaissant les viols qu'il niait jusque-là. Je lui demande pardon, lance-t-il la voix brisée. À l'écran, Oriane fait silencieusement non de la tête. Le flot de mots est devenu torrent de larmes.
En bref encore, la fusée européenne Ariane 6 a placé ce jeudi en orbite un satellite militaire embarqué pour le compte de la France. Un premier vol commercial aux enjeux cruciaux pour l'Europe, puisqu'il s'agit tout simplement de sa souveraineté spatiale.